Crush. Clash. Crush. Clash. Crush. Switzerland Clash. Crush. Clash. Crush. Clash. Crush. Clash. Ahora sí me acerco. Cuando mueves tu cuerpo. Oiga bien te lo digo. Me estás volviendo loco. Poco a poco voy sudando. Me estás mojando. Ya no puedo aguantarlo. Cuando mueves tu culito. No ves que es demasiado. Me estás volviendo loco. Vas gritando Camilo. Te lo digo si ya vengo. Vengo, va pasando el tiempo, pero para de gritarlo, no ves que vas cayendo, en la calle yo no puedo, yo no soy callejero, oiga bien te lo digo, y ahora ya no quiero, por eso ahora ya paro.
La radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Ils instaurent une stratégie de communication, de manipulation.
Julien Leguet, l'un des co-porte-parole du collectif Bassine Non Merci.
On a vraiment en face de nous une alliance qui a des moyens quasi limités. Tout le monde de l'agro-industrie et les armes de l'État. Waouh, waouh, waouh. Qui décide d'emmener à Sainte-Soline trou du cul des Deux-Sèvres, 9 hélicoptères, 2 blindés, des canons à eau, des munitions à hauteur de plusieurs milliers de bombes. Les bombes lacrymogènes, ça marche pas, alors on va leur envoyer des explosifs et des encerclantes qui font des trous dans les jambes, et que finalement, une bande de pignoufs puisse les mettre à mal comme ça, avec leur créativité. Comment on fait pour être aussi balèze en communication ? Qu'est-ce qu'on a comme arme, nous, pour résister aux vraies armes qu'ils ont en face? Ben, en effet, il y a le fait d'être présent dans les médias et de porter un autre récit que le récit des promoteurs et puis du gouvernement, quoi. S'ils mettent tout cet acharnement-là sur notre dos, d'une certaine manière, ils nous craignent, ils nous redoutent. On est tenaces dans nos convictions et déterre, ouais.
Déterminé, créatif, joyeux, pacifique, le collectif Bassine Non Merci le reste. Malgré les répressions policières et judiciaires que subissent pas seulement les luttes écologistes, mais aussi les syndicalistes et tout mouvement social contestant l'oppression capitaliste. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée. Bienvenue à vous pour cette nouvelle conversation avec Julien Leguet de BNM, Bassine Non Merci, où l'on va parler du programme du 25 mars 2026 et des commémorations de la féroce répression de Sainte-Soline II du 25 mars 2023. où l'on va aussi évoquer cette nouvelle étape du calvaire judiciaire enduré par Julien, puisqu'en ce 4 mars 2026, nous nous retrouvons à nouveau au tribunal de Poitiers pour une énième audience de Jules. Alors, je connais rien à la chose judiciaire, mais du haut de mon incompétence, ces 3 heures d'audience m'ont semblé lunaires, nourries d'accusations frisant parfois l'absurde, sans toujours de preuves pour les étayer. Graffiti au feutre Velleda ou à la craie, renversement de grilles de chantier, un tuyau cisaillé. Et puis toujours cette confusion entretenue entre le rôle de porte-parole de BNM et celui de chef ou d'organisateur. Ce qu'a aussi relevé maître Pierre Huriet du barreau de Nantes, l'avocat de Julien. Bonjour maître.
Bonjour.
Nous venons de passer 3 heures dans ce tribunal et il a été beaucoup question de pelle à grain et de stylo Velleda.
On était sur une audience un peu fourre-tout, avec beaucoup de dossiers extrêmement divers, mais qui ont tous comme point commun une forme d'acharnement par le parquet niortais de vouloir tout retenir contre Julien Leguet. Rien n'est passé.
J'ai oublié de mentionner aussi cette histoire de graffiti qui a été rapidement effacée. On a accusé Julien Leguet, d'après une photo, vous disiez, de 5 cm sur 4.
Sur le tag, on lui reproche un tag à la bombe de craie, qui est un tag qui portait une accusation, plutôt une demande de justice pour les blessés de Sainte-Soline, qui m'apparaît tout à fait légitime dans une société démocratique. Et ça, ce tag-là est vécu comme quelque chose d'insupportable, tant par le parquet niortais que par le juge niortais, qui a condamné, en des termes extrêmement virulents, les propos, considérant que c'était quelque chose d'absolument incroyable, intolérable, que de mettre en cause l'État sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Bien évidemment, nous, on demande, à supposer que ce soit Julien l'auteur, ce qui n'est pas prouvé au dossier vu la faible qualité des preuves, mais on demande que si c'est lui, de toute façon, on fasse primer la liberté d'expression.
Quelque chose qui apparaît dans cette audience comme dans des audiences précédentes, c'est la confusion entre le rôle de porte-parole d'une organisation. Julien Leguet est l'un des porte-parole de Bassine Non Merci. Confusion entre le rôle de porte-parole et d'organisateur.
Confusion qui est opérée par la cour d'appel et aussi par le tribunal de Poitiers sur le fait qu'être porte-parole devient de plus en plus le fait d'être organisateur d'eux. Et ça, c'est une pente qui est extrêmement glissante puisque ça revient à faire porter la responsabilité de tout ce qui se passe sur un rassemblement collectif sur celui ou celle qui prennent la parole pour porter des revendications. Et donc c'est une façon aussi de museler les militants et les militantes en faisant peser un risque pénal qui est complètement disproportionné. Avec toujours la justice qui a beaucoup de mal sur les mouvements militaux horizontaux. Culturellement, il leur faut un chef. Souvent un chef d'ailleurs, plus qu'une chef, c'est curieux. Et ils ont toujours du mal à entendre qu'en fait on est sur des mouvements avec quelque chose d'extrêmement horizontal quant à la prise de décision, quelque chose qui relève du consensus, qui relève du collectif, face à des organisations qui sont très verticales, où il y a forcément un, voire une chef qui décide et ils calquent ce schéma-là sur les schémas militants, ce qui ne correspond pas.
Pour moi, c'est une journée de l'appel à grains cassés et du Velleda. Vous avez joué subtilement, mais sans trop enfoncer. C'était ironique, mais sans trop.
Eh bien, tant mieux, mais en fait, c'est toujours compliqué parce qu'on est sur des enjeux qui sont lourds quand même pour Julien, notamment sur le plan des dommages et intérêts, mais avec, pour pas mal de sous-dossiers, des accusations qui tiennent assez mal, ce qui peut amener une forme d'ironie pour le faire constater par le juge. Donc c'est effectivement toujours délicat. Faut pas donner l'impression de prendre ça à la légère parce que c'est grave, mais on peut pas non plus prendre trop au sérieux certains dossiers qui nous sont présentés.
L'histoire lamentable dit fit un pétard du diable et le juge dit au coupable.
Qu'avez-vous à déclarer?
Il se tue, mais sans assise. Le président à barbe grise lui pose cette question précise.
Qu'avez-vous à déclarer?
Une nuée de journalistes, les avocats qui l'assistent.
C'est affreux!
Tout le monde insiste.
Qu'avez-vous à déclarer?
Il est rouge comme une tomate.
Il sent que sa tête éclate sous ce cri des bureaucrates.
Qu'avez-vous à déclarer?
Qu'avez-vous à déclarer?
Bonjour Julien.
Bonjour JBD.
Au sortir de cette énième audience, tu vas finir par prendre un appartement au tribunal, hein. 4 mars 2026, ça a duré 3 heures. Ouais. Rappelez une chose qu'on a d'ailleurs évoquée au précédent procès du 3 décembre 2025, dans Bassine Non Merci, dans BNM, qui se veut être un mouvement horizontal, il n'y a pas de chef. Tu peux bien nous reconfirmer à nouveau que tu n'es pas le chef de Bassine Non Merci, mais l'un de ses porte-parole.
Je confirme que je ne suis pas le chef de Bassine Non Merci, que je suis juste un de ses co-porte-parole. C'est bien, monsieur JBD ?
Non, mais ça a quand même, une fois de plus, animé une grande partie de ces 3 heures de débat hier. Parmi tous les chefs d'accusation, il t'a encore été asséné par des gens qui apparemment donnent l'impression de ne pas comprendre que tu n'es pas l'organisateur de ces manifestations, mais que c'est ta tête parlante qui dépasse du groupe. Comme c'est ta tête qui dépasse, bah c'est ta tête qui prend. Tu as été accusé d'être l'organisateur. Là, il était beaucoup question de Sainte-Soline 1. Donc voilà, il a été martelé que Julien Le Guay est l'organisateur et donc le chef de Bassine Non Merci. Donc ça me semble important de le redire. Non, ce n'est pas le cas. Donc merci pour ta nouvelle confirmation.
Déjà, je reprécise que le jugement d'hier, justement, il ne concernait pas l'organisation de Sainte-Soline 1. Ça, j'ai été condamné en appel avec un verdict le mois dernier. J'ai donc eu une condamnation à 3 mois avec sursis sur l'aspect de l'organisation de Sainte-Soline 1. Et je repasserai certainement, vraisemblablement le 11 mai, avec d'autres camarades, notamment de la Conf et des Soulèvements de la Terre, sur l'organisation de Sainte-Soline 2, avec à nouveau des peines de prison avec sursis en première instance. Et hier, en fait, je comparaissais pour des aspects de dégradation et de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Voilà, c'est ça, le chef d'inculpation.
Pour clore sur apparemment cette incapacité à comprendre, ou alors c'est un choc culturel, les magistrats, la police, etc., qui fonctionnent de manière pyramidale, avec un chef qui est tout en haut et des grouillots. Peut-être qu'ils ont du mal à comprendre que Bassine Non Merci essaye de ne pas fonctionner comme ça, que ça se veut être un mouvement horizontal et pas pyramidal.
Alors horizontal mais pas couché, hein, c'est pas... Nos collectifs, et que ce soit le collectif Bassine Non Merci ou le collectif des Soulèvements de la Terre, c'est des collectifs informels. Ce sont des associations de fait. À notre fonctionnement, on n'est pas apposé des statuts déposés en préfecture. C'est pas le cas. On n'a pas un statut d'assaut. Et à ce titre-là, on n'a pas de responsable juridique identifié. Il n'y a pas de président, de secrétaire, de trésorier, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu par défaut qui nous tombe tous sur la tronche à bras raccourcis, parce que puisque justement on fait état de notre horizontalité, d'être des mouvements où les choses se décident ensemble, où il n'y a pas d'hierarchie, et les têtes qui dépassent, comme tu l'as dit, c'est les gens qui prennent la parole au nom de leurs orgas, au nom du collectif. Et pour le coup, le point commun qu'on a avec les 8 des 9 camarades qui étions passés en procès à Niort en 2023-2024, et qui aujourd'hui, tous les appels qu'on subit, c'est les suites de cette décision-là, le point commun, c'est qu'on est tous porte-parole de nos orgas. Que ce soit Benoît Feuillu pour les Soulèvements de la Terre ou Basile Duterte pour les Soulèvements de la Terre, c'est bien parce qu'ils apparaissent dans les médias et qu'ils prennent la parole au nom de leurs gars qui sont comparus. David Baudin, la CGT, Hervé Rouguin de Solidaire, les camarades de la Conf, Benoît Jeunet, Nicolas Giraud, idem. Pour le coup, c'est des orgas bien connus et identifiés. Oui, il y a une systématisation de venir taper les figures médiatiques des mouvements. Alors pourquoi ils font ça? Parce que ça produit quelque chose. Parce que dans le récit qui est partagé ensuite dans les médias, etc., ça viendrait à criminaliser nos mouvements. Oui, on a eu de cesse devant les instances, notamment par la voix de nos avocats, mais pas que, tenter d'expliquer aux juges que notre fonctionnement n'était pas celui qu'ils connaissaient traditionnellement dans la société française, société pyramidale, une hiérarchie très établie, etc. Et finalement, ils projettent dans nos manières d'agir leur ADN à eux et leur culture à eux. Ils pensent en effet, nous sommes les chefs puisqu'on prend la parole et qu'à ce titre-là, on est les responsables de tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai mis pas mal d'énergie hier dans mes prises de parole pour justement expliquer le distinguo. Hein. Il y a un truc qui est factuel, concrètement, et c'est pas pour me dédouaner du tout. Sur toutes nos grosses manifs, tous les aspects de déploiement, les aspects un petit peu stratégiques et de comment se passe la manif en tant que telle, en fait, je suis pas associé à ces constructions-là. Par contre, il faut que j'en ai connaissance à un moment, puisque je vais participer, être de ceux qui vont transmettre aux camarades, aux citoyennes, aux manifestantes présents en quoi ça va consister. Et j'ai bien insisté auprès de la juge. J'ai regardé les yeux dans les yeux. Est-ce qu'elle va y apporter du crédit? On verra, mais... Elle ne marche pas dans le truc puisqu'elle nous a condamnés en janvier. Que je rappelle, ce n'était pas l'objet du procès d'hier.
De toute façon, de la confusion, il y en a eu beaucoup hier dans ces 3 heures d'audience, surtout avec l'avocat de la partie adverse, Sébastien Rey, l'avocat de la COP de l'eau, que j'ai trouvé très mauvais.
Ça, c'est la stratégie, Sébastien Rey. Quand il y a des choses qui sont dites qui t'embêtent un petit peu, tu peux tousser.
Oui, j'ai trouvé que l'avocat de la partie adverse a beaucoup toussé pendant que tu parlais et pendant que ton avocat parlait aussi. Alors cet homme avait certainement une portée de chaton dans la gorge. Sans vouloir de manquer de respect à la cour, je t'ai trouvé extrêmement respectueux vis-à-vis de l'institution, pas arrogant, mais t'as pas baissé ta culotte non plus. Respectueux, mais pas obséquieux. Tu as serré les dents avec beaucoup de classe. Il a été beaucoup question d'une pelle à grains cassée qui a été déplacée sur un site agro-industriel. Voilà, tu as trouvé une pelle à grains cassée le long d'une haie, pelle à grains qui n'était pas siglée, sur laquelle il n'y avait rien de marqué, qui a donc voyagé quelques centaines de mètres peut-être avant que tu la reposes. Donc tu n'as même pas volé cet objet, on t'a vu avec une pelle à grains cassée. Il a également été question d'une dégradation commise avec un feutre Velleda, des feutres pour tableau blanc qui s'effacent, voilà, c'est pas des marqueurs indélébiles. Sur un panneau de cette multinationale, tu as écrit un truc au feutre Velleda.
Il faut les citer, il ne faut pas les louper, parce que l'objet du tag, c'est que son message se diffuse. J'ai marqué sur ce panneau « Océalia, complice des bassines, signataire du protocole ». Pour ceux qui ne connaissent pas Océalia, c'est une très grosse coopérative qui couvre l'ensemble du Grand Ouest de la France, qui notamment, entre autres activités, est propriétaire de 83 magasins Gamme Vert. Ce que j'ai relevé hier, hein, c'était un peu le truc de dire, mais quel est le but poursuivi par cette multinationale à mettre de l'énergie, à lancer une procédure avec un avocat, etc., pour des faits aussi ridicules, quand tu sais qu'à côté de ça, ils vont générer rien que sur la partie grande distribution Gamme Vert, 77 millions d'euros, quoi. On a pas mal rigolé avec Pierre, mon avocat, sur le fait de... Est-ce qu'on n'avait pas agi sur le ralentissement conséquent de l'activité d'Océalia à travers le dérobage de...
Si le CAC 40 a chuté, c'est de ta faute, quoi.
Il faudrait que rétroactivement, j'aille voir un petit peu comment s'est comporté le marché à ce moment-là, mais on trêve de plaisanterie factuellement. Puis c'est ce qui est un petit peu nouveau dans la manière dont... Je me suis défendu hier. J'ai vraiment pris le parti de dire, mais what the fuck, quoi.
Non, t'as pas dit ça. Tu as été très respectueux.
Ouais, c'est vrai. Trois des affaires pour lesquelles j'étais poursuivi hier, mais sont d'un niveau...
Tu es accusé à partir d'une photo 4 cm sur 5, où on aperçoit de dos un individu hirsute qui fait un tag avec une bombe à craie devant la gendarmerie de Niort, je crois, lors d'un 1er mai, lors d'une manifestation où il y avait des milliers de personnes. Tag à la craie qui a été effacé d'un coup de jet d'eau par les services... Technique.
Dans ce que je voulais déclarer hier, c'est que c'est pire que ça. Ça a été retiré avec une espèce d'essence, un produit dégueulasse, alors que c'était de la bombe à craie qui avait juste un coup de flotte à mettre. C'est qu'à 100 mètres de là, en contrebas, t'as la sève niortaise, quoi.
Tu n'as pas répondu à la question, êtes-vous l'auteur de ce graffiti ?
Je suis toujours pas en mesure de savoir si je suis bien l'auteur du tag du 1er mai 2023. Le mystère reste entier.
Il a été question d'une pelle à grains cassée de destruction massive, d'un feutre Velleda contondant, ouais, et d'une bombe à craie, ouais, qu'on t'accuse d'avoir manipulée à partir d'une photo de 4 cm sur 5 d'un individu pris de dos et qui a aussi des cheveux.
Concrètement, la photo, on voit que la personne qui est un peu penchée, ben, il a ce superbe décolleté du plombier. Et je notais que même ma mère n'aurait pas été en mesure de dire si ce majestueux fessier appartenait à son fiston ou à un camarade de même corpulence. Et c'est ce que j'ai relevé également, quoi. On était 3000 en manif ce jour-là. C'était une manif en plein contexte de retraite 49-3, hyper tendue. Et puis on était à un mois et demi après Sainte-Soline.
2023, donc.
Et Serge était encore dans le coma à ce moment-là. Puis là, je vous précise, hein, là encore, le but de ces tags et de ces expressions, c'est qu'elles soient diffusées, que leur message... Reste, il était inscrit pour Serge et les 200 blessés de Sainte-Soline, Dubé vestieux d'Armanin en prison. Dubé, c'est la préfète de l'époque, vestieux, c'est numéro 1 de la gendarmerie, et puis d'Armanin, on le présente plus. Et d'ailleurs, dans la déclaration, j'avais aussi prévu de préciser à la cour que le 1er mai 2025, j'avais apposé un tag similaire à la craie devant la même gendarmerie. Pour le coup, je l'assume pleinement. Même j'ai appelé les médias pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour que je puisse prouver que j'étais bien l'auteur de ce tag du 1er mai 2025. J'avais marqué Dubé, Vestieux, Darmanin doivent être jugés. La NR était allée interroger le successeur de Vestieux, le colonel Carmorvan. Carmorvan disait « Monsieur Le Guay a compris la leçon. Cette fois-ci, il ne dit pas que les personnes doivent être emprisonnées. » Mais doivent être jugés. Alors, les gars-là, un colonel qui dit que Darmanin, il doit être jugé, tu vois. Et il disait également, non, là, il n'y a pas eu de dégradation, puisque ça a été fait à la craie, et qu'à ce titre-là, on n'envisage pas de poursuite. Eux, leur intention n'était pas de poursuivre pour ce tag-là. c'est à mourir de rire.
T'as le sens de l'humour, hein.
Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de choses qui me régalent et qui, pour le coup, je trouve, mettent assez bien en exergue comment finalement je me retrouve comme ça avec aujourd'hui plus de 6 procès, puis avec les appels qui vont derrière, des fois la cassation et tout. Moi, je ne suis pas du tout à dire la justice corrompue, la justice au service d'eux et compagnie. La juge que j'ai eue hier en face de moi, la présidente du jury, ça semble être une magistrate qui a essayé de tenir une espèce de forme d'impartialité, même s'il y a des moments où il y a vraiment des trucs un peu borderline. Et Pierre Hurier aura le relevé, dire si la décision est faite, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, mais en fait, c'est pas là que ça se joue. Le fait qu'aujourd'hui, y a tout un tas d'affaires qui concernent les militants écolos, alors qu'en face de ça, et suite par exemple au mouvement agricole, où il y a eu de multiples dégradations opérées par la CR... avec
coordination rurale.
Ouais, la coordination rurale.
Le syndicat agricole proche du Front National.
C'est ça. Qu'ont, par exemple, la MEL déversé plus de 70 tonnes de merde un peu partout dans la ville.
Sur un point de captation d'eau potable.
Notamment, qu'ont foutu en l'air le cairn commémoratif, le tas de pierres, l'œuvre d'art collective qu'on a construit en hommage aux blessés de Sainte-Soline, et ils sont venus le défoncer.
Donc ça s'appelle une profanation, ça.
Et quand il y a des faits de ce type-là, puis même des faits beaucoup plus graves, comme l'agression dont Jean-Jacques Guillet avait fait l'objet de la part de syndicalistes de la CR, c'est un autre copain, co-porte-parole de BNM, qui s'est retrouvé comme ça, pendu au-dessus de la Nationale, chopé par 5 gars de la CR lors d'une de nos manifs. Tout ça, c'est classé sans suite, tout ça, c'est pas instruit, tout ça, il n'y a pas de moyen d'investigation, et pour cause. En fait, le bras armé de ces stratégies d'oppression des militants écolos, mais de tout militant, de tout contre-pouvoir en Macronie, c'est le procureur. C'est le procureur qui va recevoir les plaintes et qui va décider de est-ce qu'on y met du temps et de l'énergie, est-ce qu'on y met des moyens, est-ce qu'il y a des équipes qui se mobilisent pour aller établir des preuves. C'est là que ça se joue. Moi, je peux me retrouver devant une cour pour des trucs aussi insignifiants. Quelle énergie a dû être dépensé.
Alors la justice, les tuyaux sont bouchés, on lui donne très peu de moyens. Ça mobilisait aussi de la présence policière. Et je me disais, pour ces choses très graves qui t'étaient reprochées, l'argent du contribuable est quand même bien dépensé. Parce qu'il n'y a que ça à faire de courir après des gens qui font des graffitis avec des feutres Velleda. Et s'il s'agissait de la part du pouvoir, dont les magistrats sont ici un rouage, s'il s'agissait en fait d'une stratégie de harcèlement et d'épuisement, en fait, on va vous embêter pour des inscriptions aux feutres Velleda, et à chaque fois que vous allez lever un doigt ou une oreille, on va vous tomber dessus et on va vous fatiguer, on va vous épuiser.
Ça correspond à quelque chose de finalement assez systémique et à une stratégie bien établie et mise en place et appliquée. Qui c'est qui pilote ça? Qui c'est qui met en œuvre cette stratégie? C'est très clair. Hein. Pour nous, c'est clairement le gouvernement et les différents ministres macronistes qui sont succédés au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Agriculture, principalement, main dans la main avec l'agro-industrie, l'agro-business, et puis Macron qui systématiquement donne le feu vert. Hein. C'est sûr que Macron aura été questionné sur le niveau de violence policière à appliquer à Sainte-Soline. Hein. Il n'a pas donné une carte blanche à Darmanin, et à un moment, avant d'appuyer sur le bouton, il a évidemment été mis dans la boucle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il va falloir le démontrer, il va falloir trouver les éléments qui le prouvent. Avant Sainte-Soline, et 3 jours en amont, il y avait une cellule de crise qui était en place. Comme quand il y a une crise internationale où les ministres, les hauts gradés, etc., se retrouvent autour d'une carte. Et qu'est-ce qu'on fait et tout, quoi. C'était ça aussi Sainte-Soline, avant Sainte-Soline. Je me suis un petit peu égaré, mais sur l'aspect de la systématisation des poursuites. Il y a ce niveau national où on voit bien comment ça fonctionne. Et par exemple, je rappelle que Dupond-Moretti, quand il était garde des Sceaux, a fait paraître une circulaire à destination, d'ailleurs c'est pas le terme exact, mais des procureurs, pour les inviter à la plus grande sévérité vis-à-vis des militants écologistes et à mettre tous les moyens d'investigation nécessaires, humains et matériels, pour nous confondre. Et le procureur Vadbled, qui est un bon petit soldat, qui du coup a eu la promotion aujourd'hui en Bretagne, où il voulait aller, il a beaucoup plus de gens sous sa coupe, il a appliqué à la lettre et avec zèle cette directive de Dupond-Moretti. Et après, j'ai envie de regarder un petit peu à l'échelle internationale. notamment je pense à Greenpeace aux États-Unis aujourd'hui, qui se retrouve avec une menace d'une condamnation de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est le processus qu'on appelle les procédures Bayon. C'est le fait de déposer plainte avec des risques encourus et des peines qui peuvent représenter des milliers, des centaines de millions même d'euros, quand c'est des grosses orgas comme ça aux États-Unis, ils sont là-dessus, dans l'espoir que la simple menace de dépôt de ces plaintes nous réduise au silence. Le plus gros enjeu en fait du verdict qui va tomber le 6 mai suite à ce jugement, c'est la COP de l'eau, qui réclame à mon encontre la réparation à hauteur de 1 million d'euros pour la sécurisation des 4 bassines construites jusqu'alors. Si ça tombe, on va rigoler, le million. Et d'ailleurs, la COP de l'eau avait fait appel de la décision, quoique j'ai l'impression que le ministère public l'aura finalement fait pour lui. Eux, la décision en première instance, où finalement ils obtiendraient de ma part plus de 11 000 euros pour réparation des grilles qui sont tombées lors de la manif du 29 octobre 2022, la manif qu'on appelait rétroactivement Sainte-Soline 1. Je devrais régler 3 500 euros à la COP de l'eau pour le remboursement d'un tuyau qui a été cisaillé lors de l'action du 30 octobre qui a suivi la manif, et puis 7 500 euros de réparation, dommages et intérêts et remboursement des frais de justice. Donc je devrais, ce qui est réclamé par la COP de l'eau, c'est 1 million pour la sécurisation des bassines et autour de 20 000 euros, ce qui est assez ouf. Et là, j'en arrive peut-être même à la conclusion de dire finalement, on s'aperçoit qu'en manif, et ça, c'est les notes des flics dégradés quand ils analysent le manif après coup, les bombes lacrymogènes, ça marche pas. Alors, on va leur envoyer des explosifs et des encerclantes qui font des trous dans les jambes, quoi. Puis, on va les balancer à 200 mètres. Puis là, on va peut-être réussir à aller. C'est un peu la même logique. Quand on leur donne des tiges, des peines de sursis, etc., ils n'arrêtent pas leurs conneries. Je dois les énerver. Parce qu'en dépit de toutes les épées de Damoclès que j'ai sur la gueule, j'ai pas lâché mon rôle de porte-parole. Et puis, je ne le lâcherai pas, en vrai. Et puis, je leur dis. Si l'objet d'une peine, c'est de faire cesser les activités et c'est de faire... Non, pour ma part, ça ne marchera pas. Et puis, qu'est-ce que ça génère ensuite dans l'opinion publique? Parce que finalement, Sébastien Rell, l'avocat de la COP de l'eau, il a réclamé à mon encontre des peines exemplaires, dans l'espoir que justement, ça jugule les envies de continuer à contester les bassines chez les autres. Je ne suis pas du tout sûr que si je me retrouvais à terme en prison ferme sur les asphaltes bassines parce que mes sursis seraient tombés, je suis pas du tout sûr que la réaction des camarades ce soit l'apaisement, et ce soit non, je pense que c'est plutôt le contraire. De la même manière, quand eux rentrent dans le surarmement, les réponses qu'on apporte en face, c'est d'être plus fort dans le soin, plus fort d'être dans la solidarité, etc., mais de continuer à manifester coûte que coûte. Il y a un peu le même mécanisme qui se met en branle sur l'aspect judiciaire, oui.
Piège grossier tendu au mouvement écolo, essayer de faire basculer ces mouvements dans le seul truc qu'ils savent faire en face, c'est-à-dire la violence. Vous faire jouer au seul jeu qu'ils savent pratiquer.
Ouais. Je repense rétroactivement à la déclaration que j'ai faite, et puis en fait, ce qu'est mon comportement en manif. La principale affaire qui était jugée, en tout cas moi, celle sur laquelle il y a le plus d'enjeux, et puis si ça devait tomber, clairement, faudra réfléchir à comment on y fait face collectivement, quoi. Si je me retrouve avec 20 000 balles à devoir payer à la COP de l'eau, je les ai pas, hein, et puis j'ai pas envie de les avoir non plus. J'ai pas envie ni que des sous de la lutte puissent venir combler le trou, le gouffre économique de la COP de l'eau, quoi. Une goutte d'eau dans un océan, hein, là, l'abysse est profond, l'écroulement économique de la COP de l'eau, c'est vraiment un sujet d'actualité. Un des trucs qui était un petit peu touchy hier dans ma manière de me défendre, c'est que notamment je décrivais mon comportement lors de la manif de Sainte-Soline 1, et où je faisais montre et je témoignais de ma non-agressivité et de ma non-violence, finalement. Moi, c'est mon ADN. C'est vrai que tu ne me verras jamais avec un caillou envoyer ça sur la tronche d'un flic, même s'il le mérite.
Je te soupçonne d'avoir beaucoup de défauts, mais alors je te vois comme un être foncièrement non-violent. Et d'ailleurs, dans vos rangs, et même, je n'ai jamais entendu parler d'AK-47, de dynamite, de choses comme ça. Ce n'est pas du tout ce que vous avez choisi.
Dans la déclaration que j'avais prévu de lire intégralement devant le tribunal, à une ou deux reprises, le terme de pacifique, le cortège blanc qui a cheminé jusqu'à la bassine à Sainte-Soline 1 était clairement dans des modalités d'action pacifiques. Il y avait notamment hier comme témoin Elisabeth Lucot, qui est une députée verte de la circonscription de Poitiers, qui était dans ce cortège-là et qui avançait les mains en l'air, qui a été tapée par des forces de l'ordre, qu'elle avait son écharpe, qu'elle était très identifiable ce jour-là, qu'en plus elle était enceinte, le délire quoi. Et hier, le Ray qui essayait de la titiller sur le fait de dire « Mais du coup vous avez forcé !» J'avais les mains en l'air, j'avançais. Oui, donc...
les mains en l'air et le ventre en avant.
C'est ça qui était casse-gueule, et y compris Lisa s'est pas mal fait travailler par la juge principale. Et... Est-ce que vous avez assisté à des violences? Tu vois ce truc tout le temps qu'on ne sait pas. Est-ce que vous condamnez les violences? Il y avait des black blocs.
Avez-vous vu des black blocs fabriquer des cocktails Molotov? Ce qui n'était pas l'objet des débats d'ailleurs. Enfin, c'était complètement hors sujet.
C'est ça. Il n'y a pas que le jugement des faits qui est en jeu. Il y a vraiment une dimension à la fois théâtrale et politique.